Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h07 en direct sur RMC, vous écoutez les grandes gueules du sport. En direct jusqu'à midi avec Fred Weiss, Pascal Duprat, Ludo Duchesne. Ce matin, les grandes gueules du sport qui, vous le savez, vous accompagnent tous les week-ends de l'été, même pendant vos vacances. Et n'hésitez pas, pour ceux qui ne se lèvent que maintenant, à retrouver le podcast des GG et notre débat de la première heure sur le PSG, puisqu'on est à une semaine de la reprise du championnat. D'ailleurs, dans une heure, on reparlera de Ligue 1 avec l'arrivée de trois champions du monde 98 quand même. Giroud, Pogba et donc Thauvin. Est-ce que c'est bon ou mauvais signe pour la Ligue 1? Votre avis, et n'hésitez pas à nous rejoindre au 32-16. Dans 30 minutes, la punchline signée Michael Storer, l'Australien qui a côtoyé Tadej Pogacar pendant le Tour de France. Il nous révèle que le Slovène a levé le pied pour ne pas écraser la course, notamment lors d'une étape sur le Mont Ventoux. Est-ce qu'il faut éviter d'écraser la concurrence pour être aimé? Ça sera dans un instant. Et puis dans 45 minutes, vous aimez ce moment, les GG contre-attaquent. Elles prennent les commandes de l'émission. Elles vont vous proposer un débat, c'est à vous de choisir. Vous allez sur le compte X des grandes gueules du sport dès maintenant pour voter. Mais écoutez quand même ce qu'elles ont à vous dire. Elles vont vendre leur débat. On vous écoute et on va commencer par toi, Pascal. Pascal Duprat, ton débat aujourd'hui.
Alors moi j'aimerais qu'on parle d'Arthur Fils qui oui. va en fait de défection en défection depuis sa blessure à Roland-Garros. Et j'aimerais partager et débattre de cette question avec mes amis GG. Est-ce que sa carrière pourrait être mise à mal à cause de ses blessures, ou est-ce que c'est uniquement un contretemps? Voilà la question.
Ok, très bien. Arthur Fils, effectivement, qui s'est blessé, qui n'a pas pu poursuivre lors du dernier tournoi. Ludo.
Moi, j'ai envie de demander aux auditeurs si Nice, qui s'est incliné cette semaine contre Benfica 2-0, se moque du monde, et particulièrement des clubs qui auraient pu jouer le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Je pense à Strasbourg, Lyon ou Lille. Voilà, avec une équipe beaucoup moins forte que la saison dernière, ils ont vendu leur meilleur joueur. Et je trouve qu'on est retourné dans un passé pas si lointain où les clubs français se satisfont de jouer juste la Coupe d'Europe, de se qualifier, mais surtout de ne pas aller plus loin. Merci Nice. Merci.
Un bon débat bien polémique comme Ludo Duchesne les aime. Fred.
Oui, François, moi j'ai un seul but dans la vie. Occuper du temps de parole sur le basket sur RMC. Oui, bah, et donc je vais proposer un débat sur la NBA et les contrats complètement fous. C'est-à-dire qu'il y a même des joueurs qui refusent de soit prolonger, soit de signer 4 ans et ne signer que 3 ans parce qu'ils peuvent avoir une possibilité de gagner encore plus. Mm. Les contrats deviennent complètement fous. Ça devient trop business et ça m'ennuie un peu.
D'accord, ok, t'aimes pas le business.
Bah, okay. Si, même pour moi, ça m'étonne.
Alors, juste un exemple rapide. Donc, un joueur, Jokic, s'il signe maintenant, il perd 80 millions. C'est fou quand même. S'il signe l'année prochaine, il les gagne.
Ouais, moi j'ai rien compris.
Exactement, François Pinet. En gros, François Pinet, quand il travaille bien, il gagne de l'argent. Quand il travaille pas bien, il gagne pas d'argent.
Ouais, mais ça, c'est déjà le cas. Hein.
Ah oui. Mais je travaille bien parfois, donc.
Même quand je travaille bien, je gagne pas d'argent. Ah, c'est ça, la vérité. Bon, en tout cas, vous allez voter, vous l'avez compris, sur le compte X des grandes gueules du sport. Je ne dis rien, mais je le dis quand même. C'est très serré pour l'instant. Donc, chaque vote compte. N'hésitez pas à retrouver ce sondage sur le compte X des grandes gueules du sport. Mais d'abord, avant de retrouver les grandes gueules contre-attaque, c'est un crunch qui est au menu du bras de fer des GG aujourd'hui.
RMC, le bras de fer GG.
It's me.
Et l'essai anglais sur une magnifique passe sautée.
Repeat after me.
Ça chauffait depuis déjà 2 ou 3 minutes devant l'but tricolore.
What is the difference between the chicken and the house? C'est la leçon d'aujourd'hui. Interrogation écrite, flash éclair.
Elles ont tenu, les Françaises au ras, résister à la puissance de ces Anglaises.
Vous marquez la date d'aujourd'hui en anglais. What's the day today? What's the day today? Je ne veux rien savoir. What's the day today?
Ça va faire 43-28 en faveur de l'Angleterre. On le disait, les Naïgs, il fallait être les premières à marquer quand on était à 10 points. Là, à nouveau, les Anglaises se retrouvent un petit peu hors de portée des Françaises.
Are you ready? Begin! Il vous reste 5 secondes.
C'est quasi mission impossible, mais déjà, de voir les Françaises à un petit point de l'Angleterre à Twickenham, c'est exceptionnel. 43-42 dans cette rencontre, 80e minute de jeu.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Prenez-moi, copines !
Oh, elles vont chuter à un petit point. Un petit point, les Françaises, 43-42, c'est terrible. mais tout Twickenham est debout pour saluer ce match, saluer cette performance. Le match aura été énorme. Défaite d'un point, 43-42
Lenaïk. Qui aurait cru ce scénario de fou? Qui aurait cru ça?
L'équipe de France féminine de rugby qui doit bien apprendre ses leçons d'anglais pour le grand rendez-vous à venir, le mondial qui aura lieu en Angleterre à partir du 22 août, à suivre évidemment en direct sur RMC tous les matchs de cette équipe de France. Pour préparer cet événement, les Bleus ont choisi d'affronter leur meilleur ennemi, l'Angleterre, ce soir à Mont-de-Marsan, 21h15. Match à suivre sur RMC. L'Angleterre qui fait partie des favorites de cette compétition et qui pourrait même retrouver les Bleus dès les demi-finales de ce mondial. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'affronter l'un des favoris avant la compétition? Dans la team, bonne idée. Comme par hasard, le tandem magique, Ludo Duchesne, Pascal Duprat. Dans la team, mauvaise idée, Fred Vett.
Comme par hasard.
Comme par hasard. Avant de lancer ce débat, on va accueillir Camille Borin qui a suivi la semaine des Bleus pour RMC Sport cette semaine. Bonjour Camille.
Salut François, salut les GG, salut à tous.
Salut Camille.
Camille, qu'est-ce que les Bleus attendent de cette rencontre?
Eh bien écoute, l'objectif de ce match, il est très simple, se tester. Et c'est pas moi qui le dis, c'est David Ortiz, le co-sélectionneur des Bleus. Écoutez.
Je pense qu'avant tout, c'est d'être capable de valider tout ce qu'on a abordé durant toute cette prépa. Les filles, ça fait aussi deux bons mois pour certaines qu'elles ont joué leur dernier match, pour d'autres même plus. C'est important pour nous surtout de retrouver le rythme d'un match, retrouver l'enjeu d'un match. Ça reste quand même un match face à sûrement la meilleure équipe au monde. Plus un objectif de ce que l'on va produire en termes de contenu, de ce qu'on va rendre en termes de copie face à cette équipe anglaise.
Voilà, le but, ce ne serait pas forcément de faire un résultat, donc, mais plus de proposer un jeu de qualité. Bon, après, on va pas se mentir, une victoire contre les Anglais, ça ne ferait pas de mal aux Bleus parce que l'Angleterre, c'est clairement leur bête noire. 15 défaites d'affilée pour les Françaises face aux 15 de la Rose, ça fait mal. Et la dernière en date nous a fait peut-être encore un peu plus mal que les autres. Souvenez-vous, c'était il y a quelques mois, lors du dernier match du tournoi des Six Nations, les Bleus ont perdu d'un point seulement contre l'Angleterre et c'est ce qui leur a coûté le titre. Alors oui, on peut se demander si c'est une bonne idée de jouer leur seul match de prépa contre une équipe qui leur donne autant de fil à retordre. On pourrait se dire qu'elles risquent de perdre et de commencer la Coupe du Monde, le moral dans les chaussettes et avec un manque de confiance en elle. Et la question a justement été posée à Marine Ménager qui sera co-capitaine ce soir. Je vous laisse écouter sa réponse qui vous influencera peut-être dans le débat juste après.
Je pense que c'était le meilleur choix, surtout sur l'aspect mental. Aujourd'hui, on bute sur les équipes du top 3, sur ces entames de match où des fois on est trop attentiste. On a beaucoup travaillé aussi sur cet aspect-là. Si on veut voir si on a bien travaillé, il faut les rencontrer. On est prête à faire un gros match. Pour nous, c'est loin d'être un match amical. C'est un match de préparation, mais c'est pas un match amical. C'est jamais amical, un match de rugby.
D'autant plus quand on sait qu'à 13 jours seulement du début de la Coupe du Monde, le 15 de France féminin pourra compter sur son public. Près de 8000 supporters sont attendus ce soir à Mont-de-Marsan pour encourager les Bleus.
Merci beaucoup Camille, à très bientôt sur RMC. Effectivement, RMC sera là pour suivre cette rencontre commentée en direct ce soir. Le point sur le sondage lancé donc ce matin sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Dans la team Bonne Idée, 64%. Pour la team Mauvaise Idée, 36%. Merci. Donc vous connaissez évidemment le principe de cette séquence. Il faut convaincre ceux qui nous écoutent. Fred, il s'est relevé les manches.
Vas-y.
Team Mauvaise Idée, tu penses que c'est une mauvaise idée d'affronter les Anglaises avant ce grand moment, oui, ce mondial?
Tu me permettras, François, de te reprendre un petit peu. Tu as dit un des favoris, c'est le favori absolu. Hein. C'est
bah, bon. Oui.
Alors c'est le favori absolu. Quand, en plus, à la maison, c'est l'Angleterre et le favori absolu. Mais moi, je me pose la question, en fait, qu'est-ce que tu as à y gagner? C'est-à-dire qu'en gros, dans le meilleur des cas, tu gagnes. Mais que, ça ne servira pas à grand-chose, mis à part, certains diront, te mettre un petit peu en confiance. Oui, sauf que tu vas peut-être en plus énerver ces Anglaises qui vont avoir à cœur de se rattraper, de te battre encore plus largement, alors que tu risques de tomber contre elles en demi-finale, ce qui te priverait de plein de choses. Donc déjà, en soi, ça me paraît compliqué. Mais ça, c'est le meilleur des scénarios. Et la probabilité est très faible. Il faut se rappeler quand même que c'est notre bête noire, Camille l'a expliqué.
Camille le disait,
c'est quand même une équipe qui nous a mis la misère à chaque fois. Et la dernière fois qu'on perd contre elle, on perd d'un point, oui. Sauf qu'on fait une excellente deuxième mi-temps. Mais sur la première mi-temps, on est vraiment dominé. Donc, c'est vraiment une équipe qui, pour nous, est quasiment injouable. D'accord? Donc, logiquement, on va perdre. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as commencé une Coupe du Monde avec un match de préparation contre une équipe qui est fantastique, qui est la favorite, et tu vas perdre le match contre elle. Donc ça veut dire que tu vas perdre la confiance, tu vas te sentir moins à l'aise par rapport à ton jeu.
On a perdu alors, ça y est.
Et donc, je pense que c'est se mettre en danger. Parce que qu'est-ce qu'il faut dans une préparation? C'est monter crescendo, arriver effectivement à jouer des cadors, mais pas forcément le favori, à la fin, pour arriver plein de confiance, plein d'énergie, plein d'envie, et pas se retrouver directement à se prendre peut-être, parce que le risque existe, une petite rouste par l'Angleterre, et là tu es comment? C'est-à-dire que tu commences une Coupe du Monde en ayant pris une rouste. Alors oui, et en plus il nous explique, c'est pas un match amical, c'est parce qu'il n'y a rien d'amical contre les Anglaises. Moi, honnêtement, je ne vois pas du tout l'intérêt. Je pense qu'il aurait été préférable de jouer des adversaires plus à notre portée pour commencer, et arriver, et peut-être faire un coup à la Coupe du Monde. Là, pour moi, ça enlève beaucoup de chances de faire un coup à la Coupe du Monde dans tous les cas de figure.
Ludo.
Fred Weiss, c'est extraordinaire.
Ludo, on est facile.
Ouais, vrai, vraiment, non, c'est qu'il a vraiment. Balancé, c'est... Non, mais il est extraordinaire. Mains, il nous a expliqué.
Mais déjà, vous commencez vous dites quelque chose de vrai. Je suis extraordinaire. Merci beaucoup.
Fred extraordinaire, il nous a expliqué tout à l'heure que Luis Enrique ne savait pas ce qu'il disait. Maintenant, il nous explique que Gaël Millot et David Ortiz, qui entraînent cette équipe de France, sont des charlots. Moi, je dis que quand il nous explique que, effectivement.
C'est pas du tout ce que j'ai dit.
Non, mais si, un petit peu quand même. Quand il nous explique qu'ils veulent justement s'étalonner une dernière fois avant, c'est dans 15 jours, ce mondial.
Il a le droit de dire que c'est l'allumé contre la favorite,
oui, mais
ou l'une des favorites.
Moi, j'ai envie d'entendre.
Et le mourra dans les chaussettes, tu y penses, le mourra dans les chaussettes si tu commences.
Les entraîneurs et les joueuses, parce que les joueuses aussi se sont beaucoup exprimées sur cette confrontation. Après, je veux juste reprendre Fred quand il dit qu'on a pris que des raclées. Le dernier match, on a perdu d'un point.
C'est ce que 43, j'ai expliqué. En fait, tu vois, en
42,
fait, le problème, c'est qu'une équipe.
C'était en plus.
Tu n'écoutes, pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on avait très mal joué sur la première mi-temps. Effectivement, qu'on avait fait une très bonne deuxième mi-temps. Mais quand on a eu la possibilité de gagner, on a fait un an d'avant.
Et même les joueuses le disaient, si tu joues contre demain contre l'Espagne, je crois que les Anglaises leur ont mis 70 points, etc. Ça n'a aucune espèce d'importance et aucun révélateur. Il n'y a rien
entre l'Espagne et l'Angleterre. Tu peux trouver quand même des adversaires d'un bon niveau.
Le seul truc où Fred a raison, c'est que là, c'est la référence. C'est une équipe qui est bientôt invaincue depuis 3 ans.
C'est ta bête noire.
Donc tu vas voir où tu en es dans la préparation. C'est le but et l'objectif des entraîneurs et des joueuses. L'équipe de France se rapproche. Il faut dire aussi que l'équipe de France n'est pas très loin de l'Angleterre. Lors des 3 dernières Coupes du Monde, elles ont fini sur le podium à chaque fois. Donc, ce sont des joueuses qui sont ultra performantes. Dans le tournoi destination également. Donc, moi, je trouve que c'est évidemment un bon match, évidemment un bon test. C'est à Mont-de-Marsan, c'est en France. Et juste, Fred, dernière chose. Tu dis, oui, si elle gagne peut-être pour la confiance, etc. Excuse-moi, si elle gagne justement la confiance, ça va les booster. Elles vont arriver dans ce mondial.
Elles vont tout casser. Ludo était le premier à dire que moi, je pensais qu'elles avaient perdu. Et lui, elles ont déjà gagné. Elles n'ont pas gagné du
coup. Bah oui, bah,
50 ans, j'étais même pas né la dernière fois.
Excuse-moi.
J'étais même pas né la dernière fois qu'elles ont gagné contre l'Angleterre.
J'ai envie d'y croire.
Là, il est en train de nous expliquer.
Moi, j'y crois.
Elles vont gagner forcément.
Moi, j'y crois.
Pour moi, c'est à double tranchant. Tu gagnes. Pour moi, je suis pas sûr que ce soit si bénéfique que ça.
Ah bon?
Tu perds, par contre, t'es encore pire. Donc, ça veut dire que. Alors, en plus, il est en train de nous expliquer, Ludo, que faire un podium, c'est être champion du monde. C'est pareil. C'est exactement
non,
pareil.
Je dis qu'elles sont pas loin.
Contre qui?
Contre qui elles jouent la
troisième place?
Je dis qu'elles sont pas loin.
Contre le Canada. Alors, je suis désolé, mais c'est pas tout à fait le même niveau que l'Angleterre.
Cela dit, mon cher Fred, même si les Anglaises sont invaincues depuis 1002 jours, ça fait quand même pas hier, ça, 1002 jours. Il faut reconnaître qu'il y a que deux autres nations qui peuvent rivaliser avec les Anglaises. Ce sont les Françaises, bien entendu, et les Black Ferns, les Black Féminines. OK? Et la France, elle est pas si loin, que ça des Anglaises. Je vois pas pourquoi un match contre
pas de titre,
la
pas si loin.
Meilleure nation mondiale du rugby, puisqu'invaincue depuis 1002 jours, je vois pas en quoi, alors que les co-sélectionneurs veulent s'attacher au contenu, je vois pas pourquoi ça serait pas une bonne idée que de jouer la meilleure nation du rugby. Plus tu joues contre meilleur, mieux tu perçois le rugby.
Parce que t'es à 2 semaines du mondial.
Pascal, soyons
quand
à niveau vert, montrons-leur exactement notre jeu et notre façon et montrons bien nos faiblesses avant le mondial.
Mais quand on saura que les Françaises et les Anglaises ne pourraient se retrouver qu'en demi-finale, c'est-à-dire dans un mois presque, bon, franchement, je vois pas quelle incidence en termes de résultats ce match pourrait avoir sur la suite.
Tu sais qu'il y a la vidéo, ça existe. Hein. Peut-être quand tu coachais Pascal, il n'y avait pas la vidéo, mais non, il y a la vidéo, il peut le revoir. En
tu
fait.
Penses que les vidéastes de l'équipe nationale de rugby féminine anglaise, tu penses que les vidéastes, ils ne regardent que les matchs qui confrontent la France et l'Angleterre? Aujourd'hui, ils peuvent regarder tout ce que, même les entraînements des Françaises, ils peuvent les disséquer s'ils le veulent. Alors, donc ça, c'est pas un argument.
En espérant l'argument, qu'il n'y ait pas de blessure, hein, parce que ça sera, un match avec
les Françaises.
Les deux côtés, Fred. Les deux côtés.
Non, mais moi, il y a un truc qui me, il me désarme, Fred. T'aurais voulu que je joue contre le Vatican, mais contre le Luxembourg,
ouais,
Il y a entre les deux, et c'est ça qui me choque chez, chez ces deux personnages. C'est incroyable, il n'y a pas d'entre deux. Justement, ce que je dis, faut monter tranquillement et arriver à la fin.
Entre deux, c'est les mêlées au rugby.
Voilà. Pascal, Ludo et Fred, je vais faire appel à quelqu'un d'honnête et d'objectif qui n'est pas dans la caricature pour arbitrer ce débat. C'est Lénaïque Corson qui va commenter d'ailleurs pour RMC ces matchs de la Coupe du Monde. Salut Lénaïque, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour tout le monde.
Bon, t'as vu, c'est animé. Hein. C'est animé. Et t'as un rôle pas facile parce qu'il va falloir que tu arbitres ce débat. Bon, t'as entendu la question. C'est assez partagé ici sur le plateau. Certains pensent que c'est une mauvaise idée d'affronter l'équipe d'Angleterre avant un mondial. D'autres pensent que c'est au contraire très bien de le faire. Quel est toi ton sentiment?
Effectivement, c'est toujours très dur dans les grandes gueules de trancher et d'avoir un avis contre ou pour.
T'es suisse, là, pour le coup, ou quoi
je suis plutôt sur un avis partagé parce que c'est vrai que d'ordinaire, à chaque fois que la France a préparé des test matchs avant une Coupe du Monde, c'était contre des nations de ranking inférieur. Et clairement, on y allait pour prendre de la confiance et se rassurer avant un mondial. Là, clairement, tu joues les numéros 1. Clairement, elles sont ultra favorites. La Coupe du Monde, elle va avoir lieu chez elles. Il faut se rappeler aussi qu'elles ont perdu deux finales de Coupe du Monde contre les Black Ferns, celle de 2022 en Nouvelle-Zélande et celle de 2017 en Irlande. Je pense que ces Anglaises ont encore ces images de douleur, de finale perdue et de rêve de championne du monde qui s'effondre dans les dernières minutes d'une finale. Donc, je pense que cette équipe d'Angleterre aujourd'hui, elle est ultra dangereuse, elle est ultra déterminée. On sait qu'il y a des joueuses, c'est du jamais vu. Hein. On a des joueuses de grosse expérience en Angleterre qui vont préparer leur 5e Coupe du Monde. C'est Émilie Scarratt, il y a Marley Pecker, la troisième ligne, anciennement capitaine, qui elle va jouer sa 4e Coupe du Monde. Donc on a une expérience inégalée dans le rugby féminin. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne et ce qui a été dit, ça fait 1002 jours qu'elles n'ont pas perdu et elles sont hyper régulières dans leur performance. Et il faut rajouter à ça, bon, la Coupe du Monde se joue dans leur pays, il peut avoir aussi un petit aspect pression, mais tout l'écosystème du rugby anglais est archi préparé pour cette Coupe du Monde et surtout ce qui va se passer après, c'est-à-dire comment va évoluer le rugby féminin en Angleterre. Avec un objectif de 100 000 licenciés.
Donc si on t'écoute bien, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Angleterre, mais pas spécialement pour la France, en fait, d'affronter, de faire ce match-là.
C'est clairement l'Angleterre qui même a été démarchée, la France.
Ah, voilà.
Je pense clairement, parce qu'aujourd'hui, on fait partie quand même des équipes, même si ça fait plus d'une dizaine de fois qu'on les perd, que ça fait depuis 2018 qu'on n'a pas gagné l'Angleterre, je pense qu'on est l'équipe qui leur pose le plus de problèmes. Parce qu'on est très unpredictable, on est très imprévisible et sur le terrain, et ça, elles n'aiment pas. Elles sont organisées et elles n'aiment pas des équipes, justement, ce French Flair où on ne sait pas trop comment les Françaises vont jouer. Et c'est pour l'équipe d'Angleterre, en tout cas, un bon test avant
une c'est une prépa. Lénaïque nous répond, c'est une prépa pour l'Angleterre, en fait. On est des bons sparring
partners. Ça reste un test match. Donc,
victoire par KO sur ces triste personnage et j'ai envie de te dire après, si tu penses aux coquettes c'est quoi les coquettes,
j'ai pas l'impression que ce soit une victoire par KO.
Je voudrais te demander, en fait, je vois pas le côté négatif parce que si tu perds contre l'Angleterre, c'est normal, et si tu gagnes par contre pour la confiance et pour le pour avant d'aborder ce mondial, c'est tout bénéfice.
Oui, si tu gagnes. Oui.
Donc oui, mais parce que
contre
c'est une
éventualité
parce que elles ont jamais été aussi prêtes de les battre. Ça fait 5 6 ans 7 ans qu'elles gagnent.
Les deux dernières éditions du tournoi des Six Nations où on perd d'un point. Donc ça voilà. s'est joué à rien et on fait partie aujourd'hui de la bête noire un peu des Anglais. C'est bizarre de le dire comme ça parce qu'on perd et que ça fait plus d'une dizaine de matchs que ça se répète. Mmh. Mais on fait partie des équipes qui challengent le plus l'Angleterre. Et je pense que, sincèrement, de jouer peut-être des équipes de ranking inférieur, oui, ça rassure, ça met en confiance, mais est-ce qu'on apprend vraiment et est-ce que ça nous challenge ? J'en suis pas certaine non plus. Aujourd'hui, on a aligné quand même la très, très grosse équipe de France. On joue ce match en France, c'est aussi, il faut le dire, les Françaises ont aussi un enjeu de gagner devant leur public. On sait que ça donne beaucoup d'émulation, il y aura beaucoup d'effervescence. Et puis, je pense que si on avait joué, je ne sais pas, le Brésil, l'Écosse en test match, on n'en aurait même pas parlé aujourd'hui.
Après, il aurait adoré,
c'est vrai, les
80 points, ça aurait été génial.
L'enjeu est aussi médiatique, c'est la visibilité que va gagner le rugby féminin. Et ça, on compte sur les
Naïcs.
Attendez, c'est intéressant ce que dit les Naïcs. C'est vrai qu'il y a une place à prendre pour cette équipe de France féminine. On a vu la déception avec les buteuses.
Mais bien sûr.
Là, pour le rugby, et en plus ce match en France contre l'Angleterre, c'est pour ça qu'on en parle. Elle a raison, les Naïcs.
Les Naïcs qu'on se fasse pas concasser parce que c'est très beau ce que tu viens de dire, mais si on se fait concasser, la situation sera complètement différente.
Justement, en parlant de concassage, vas-y, merci. Vas-y, les Naïcs.
On dira, bon, bah, c'est l'Angleterre et on ira, mais je suis pas certaine qu'on se fasse concasser.
Très bien. Bah, ça sera ce soir à suivre évidemment sur RMC. Et puis toi, les Naïcs, on te retrouvera tout au long de la compétition pour les Françaises. On va suivre évidemment ce mondial de très près. Tu seras avec Pierre Thévenet en Angleterre pour suivre toutes les rencontres de l'équipe de France. On espère le plus longtemps possible. Merci beaucoup, les Naïcs, d'être venus dans
merci
les Grandes Gueules du Sport.
Merci. Merci pour le soutien, les Naïcs.
Et figure-toi que grâce à les Naïcs, tu as remporté ce bras de fer.
C'était évident.
Ouais, enfin, vas-y.
62% bonne idée.
Voilà,
38% mauvaise idée. Oui, mais il a gagné.
Il a gagné.
Il a gagné 2%.
Il
a gagné
62%, mais il gagne. Ah bon.
Mais parce qu'il a gagné 2% par rapport.
Il n'est pas élu quand même.
Non, François, je vais résumer pour Pascal. Pascal, quand tu ne parles pas,
vous
êtes au-dessus que quand tu parles, tout simplement.
Non, mais nous avons 62% et nous devons déplorer d'avoir
perdu. Et t'es parti de 64, t'as perdu 2%. Voilà,
c'est tout. En fait, quand tu parles, tu perds 2%.
En fait,
t'es en train de perdre plus de points.
Ludo, nous avons perdu d'avoir gagné.
Ouais, mais nous, on est content de perdre à 62%, Pascal.
Oui.
Bon, on trouve le tandem Ludo-Pascal dans un instant, et peut-être en tournée dans toute la France. En tout cas, les grandes gueules du sport reviennent avec la punchline d'un coureur australien, Michael Storer, qui a vu de près Tadej Pogacar cet été lors du Tour de France. Il explique qu'il aurait fait exprès de ne pas tout écraser lors du Tour de France, notamment pour éviter de se mettre à dos le public français. On va parler de tout ça dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Fred Weiss, Ludo Duchesne, Pascal Duprat ce matin. Ah oui, là, la petite toux qui arrive au pire moment. Dans un instant, bah tiens, les grandes gueules contre-attaquent. Ça va être à vous de parler. Et ça tombe bien. Et pour l'instant, si on regarde vraiment les scores en cours, c'est très très serré. Hein. Donc chaque vote compte, c'est mieux que voilà. La folie des contrats NBA en tête, c'est ton pari qui est en tête pour l'instant, 38%. Là, il m'a regardé avec les gros yeux, Fred, il n'a pas du tout préparé, donc ça c'est le problème. Hein. Il est là pour son débat à basket, il pense qu'il va perdre, mais là pour l'instant tu es en train de gagner. Et juste derrière toi, 31% pour ton débat Ludo et celui de Pascal, Arthur Fils pour Pascal et sur Nice en Coupe d'Europe. Pour Ludo, vous pouvez encore voter le résultat dans 10 minutes. Mais d'abord, c'est la punchline GG signée Michael Storer, le coureur australien de l'équipe Tudor. Il a participé au Tour de France et dans un podcast nommé Hot Seat, il a clairement expliqué que Pogacar avait fait exprès de perdre.
RMC, la punchline GG.
Yeah, it's a bit strange because I had some info that Tadej decided not to win that stage.
Je trouve ça un petit peu bizarre de faire rouler son équipe à fond toute la journée et de décider dans la dernière montée de ne pas gagner l'étape. D'après mes informations, les supporters français le huaient. La direction de l'équipe a donc décidé qu'il valait mieux peut-être ne pas gagner ce jour-là juste pour gagner le soutien des supporters français. Je suppose donc qu'ils ont également pris cela en considération pour ne pas tout prendre.
Just to keep the French fans on side. So I suspect that they took that into consideration as well in the last week.
Michael Storer, donc, dans un podcast, l'Australien de l'équipe Tudor, qui parle de la domination de Tadej Pogacar et particulièrement, vous l'avez compris, de cette étape au Mont Ventoux. C'est finalement Valentin Paré-Peintre qui s'est imposé. Et Storer explique que c'est peut-être une consigne d'équipe pour éviter que Pogacar soit pris pour cible par les supporters français. D'où cette question, les GG. Pour être aimé, est-ce qu'il faut éviter d'écraser la concurrence? Oui ou non, Fred Weiss?
Non.
Ludo Duchesne?
Oui.
Pascal Duprat?
Non.
Ah, on a une association
Duprat-Weiss.
Je pense que les arguments Duchesne vont être différents.
Oui. Pascal, si tu veux, on peut t'écouter sur ça. Pourquoi toi tu penses qu'il ne faut pas...
En fait, le cas Pogacar ne dépend pas de son hégémonie et du fait qu'il gagne tout le temps.
Ah bon ?
C'est que ça nous laisse circonspect et que ça laisse beaucoup de personnes dans son milieu circonspect. Je fais juste un parallèle. Duplantis à la perche, il gagne tout. Pour autant, personne ne conteste, personne ne trouve à redire, parce que il a des perches plus dures, plus longues, il a une course d'élan plus rapide que les autres, et il est tout simplement meilleur. On attend juste qu'il batte une nouvelle fois le record du monde. Le problème de Pogacar, c'est autre chose, d'ailleurs ça a été souligné souvent pendant le Tour de France, c'est qu'on se dit comment il fait. C'est pour ça que les supporters le sifflent. Comment il fait? On pense que c'est pas possible. Scientifiquement, certains avancent que il a fait des progrès en termes de watts, en termes de montée, de temps
ce qui est vrai,
effectué en plus, sur les montées. Il bat des records, c'est insensé. Donc tout ceci sème le doute. C'est pour ça qu'il est sifflé. Appelons un chat, pas parce qu'il gagne tout. Il est sifflé parce que il y a un doute, et ce doute, il persiste parce que de plus en plus il domine la concurrence.
Il écrase
la concurrence et il fait encore plus d'écart. Je me rappelle une étape pendant le Dauphiné où il décide de partir alors que la veille il avait été largué. Il décide de partir, il gagne l'étape, à la fin en arrivant il n'est même pas une goutte de sueur, il dit il fallait que je me dépêche parce qu'il y a ma femme qui est venue sur l'étape. Pogacar, vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Pogacar, je peux vous citer, j'ai lu les articles de certains, qui sont partie prenante dans le peloton, et qui disent à demi-mot, non mais attendez, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Physiologiquement, c'est pas possible ce qu'il fait. Donc ça, c'est pour ça que le public a un peu de haine. À mon avis, ça reste que mon avis.
Bon, mais de là à effectivement choisir de ne pas gagner, parce que c'est ça que dit le coureur australien en question, c'est que il y a vraiment une décision peut-être même de l'équipe de dire bon bah tu vas pas gagner aujourd'hui, en plus c'est un Français
pas
qui va
parce
gagner
parce que c'est trop gros, peut-être faut peut-être perdre de temps en temps parce que c'est tellement gros, c'est peut-être ça aussi.
Après alors moi je
dis bien peut-être, c'est du conditionnel,
je rejoins Pascal sur l'ensemble de son analyse.
Ça faisait longtemps.
Disons que c'est une question sur laquelle j'aurais répondu l'inverse la plupart du temps, mais en vélo, il y a un historique, il s'est passé énormément de choses, et c'est vrai que sur certaines étapes récemment, et je pense même au Giro de l'année dernière, ça rappelle de très mauvais souvenirs. Donc je pense qu'effectivement, la manière dont il peut gagner, la progression qui est la sienne depuis début 2024, c'est-à-dire après ses échecs en 2022 et 2023 sur les Tours de France remportés par Vingegaard, c'est vrai que là, par exemple, je prends un exemple sur la montée de Hautacam, entre 2022 et la victoire de Vingegaard et 2025, la sienne, où il a écrasé tout le monde, il a mis 3 minutes à Vingegaard. 3 minutes de différence sur une montée, et par rapport à ce qui se fait de mieux au monde, c'est-à-dire Jonas Vingegaard. Donc c'est vrai que ça pose question, moi je suis d'accord avec Pascal, et ça pose question sur son attitude et sur son visage, sur tout ce qu'il dégage quand il arrive. On a l'impression qu'il n'est pas fatigué, et c'est vrai que ça rappelle de très très mauvais souvenirs dans le vélo. Après, juste un mot quand même sur Michael Storer, qui dit un peu tout et son contraire dans son interview, dans son podcast, puisqu'il dit aussi que l'UAE était à bout de force, que Tadej était fatigué. En fait, si on lit vraiment l'interview, il parle pour lui, c'est-à-dire qu'il dit pourquoi rouler toute la journée si c'est pour ne pas gagner, laissez-nous nous échapper. Storer, qui était l'équipier de Alaphilippe, a tenté plusieurs fois de s'échapper, et à chaque fois c'est vrai que ça a roulé, les UAE ont embrayé derrière, ils ont roulé, et donc ils sont revenus.
Il ne comprend pas pourquoi effectivement UAE roule alors que Pogacar à la fin il laisse la victoire, et notamment
Ça c'est une conclusion à laquelle je n'adhère pas, c'est-à-dire qu'il laisse, pardon, il y a d'autres coureurs. Par exemple, exemple, tu as parlé de la victoire de Paris-Printemps qui était absolument magnifique. Au col de la Lauze, c'est, on a eu un très très grand numéro de Ben O'Connor. À Superbannière, c'était Arensman. Et faut rappeler qu'à la Plagne, dans une étape encore terrible, eh bien Vingegaard à la fin passe devant et finit devant. Donc il y avait aussi peut-être la fatigue. Il a
tu ne crois pas à cette théorie, toi, non. de Pogacar qui laisse certaines étapes.
Non, mais juste à un moment donné, il était peut-être. D'ailleurs, il le paraissait sur son visage, etc. Il était peut-être aussi fatigué. Il a couru comme personne cette année. Il a pratiquement tout gagné. Donc à un moment donné, en troisième étape du Tour. À un moment donné, Vingegaard était beaucoup mieux. Ouais. Il avait aussi le droit d'être fatigué et de ne pas pouvoir gagner. Moi, je suis désolé, je réfute cette
c'est
idée.
C'est bon signe s'il est fatigué.
Oui, c'est bah oui, quand même. Ouais. D'ailleurs, on lui a tellement posé la question qu'il a dit ce serait anormal que je ne le sois pas. Bah, oui. Après, on préfère qu'il soit aussi fatigué et donc qu'il ne gagne pas, qu'il laisse gagner parce qu'il se fait huer. Ce qui a été le cas, on l'a remarqué sur certaines étapes. Parce que c'est vrai qu'il a gagné 4 étapes au bout de 2 semaines. On se disait le gars, il va gagner 8 étapes. Il va gagner avec 25 minutes d'avance sur le deuxième, c'est ce qu'on pressentait. Donc oui, ça inquiétait tout le monde. Donc que c'est inquiété aussi l'UAE, qui autour du staff et des entraîneurs de l'UAE, il y a eu aussi des gens qui n'ont pas été tout très clairs pendant toute leur carrière, je veux quand même le dire. Donc à un moment donné, c'est vrai que peut-être qu'ils se sont posé la question, mais quand tu fais rouler ton équipe, je veux dire ça aussi, tu fais rouler ton équipe toute la journée, c'est pas pour ça que tu vas gagner. Ça dans le vélo, on l'a vu tellement de fois que c'est pas pour ça que tu vas gagner l'étape. Donc je te heurte. Il est peut-être aussi frustré parce que lui, il s'est fait rattraper dans plusieurs échappées et que finalement il a été assez loin de gagner. Mais les étapes qui ont été gagnées par Valentin, c'était absolument magnifique contre Benilly au Ventoux et d'autres étapes. Et ben
après,
voilà.
Après, il y a quand même aussi au-delà du côté suspicion, etc. pour le cyclisme, un côté aussi très français, il faut le dire. Quand on voit quelqu'un qui domine
et qui n'est pas français.
Est très dominant. Oui. Bah, en général, on le prend un peu pour cible. On n'aime pas trop non plus ceux qui explosent les autres.
Federer au tennis, le public français espérait qu'il perde. Non, il était tellement beau ce joueur.
Tu peux dire Djokovic quand il a un
peu. Mais parce que Djoko, il est clivant. Même Nadal. Parce que Djoko est clivant. Nadal, alors que Pogacar, il n'est pas clivant. Nadal, c'est aussi pour des raisons.
Okay. Non mais Nadal il est adoré en France. Mais non, je
te dis ça. Oui, en France. Moi j'ai deux choses à dire par rapport à ça. Moi j'aime pas du tout l'attitude de Sauer déjà, parce que Valentin Paris-Peintre a gagné son étape et je trouve que
ça dévalue sa
performance. Oui, et c'est une honte absolue de faire ça. Ce mec, il porte bien son nom, je trouve. vraiment. Et ensuite, il faut pas partir du principe. Et encore une fois, moi je suis parti du principe où tout le monde est clean dans le vélo et qu'il y a pas de problème. Il faut partir du principe que il ne faut pas être aimé dans le sport. Il faut être respecté. Et pour être respecté, non, il faut gagner tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que être aimé, c'est pas très important pour un athlète.
La preuve que si.
On va pas écouter ce que dit Storer. Et je pense qu'il faut pas éviter d'écraser la concurrence quand tu peux le faire. Parce que une carrière de sportif, c'est court. La domination, c'est court. Et il faut en profiter au maximum. Et encore une fois, ne pas être aimé par le public, c'est pas très grave. Parce qu'à la fin de ta carrière, quand on verra tout ce que tu as gagné, tout ce que tu as apporté, tout ce que tu as fait, on t'aimera quand même et on te respectera surtout parce que tu seras un énorme champion. Je trouve que éviter de gagner juste sous prétexte que je serais un peu plus aimé si je gagne pas, ça n'a aucun sens.
Il s'en fout, Pogacar, je suis d'accord
avec Fred. Le seul truc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en vélo, ça rappelle de trop mauvais souvenirs et que Fred
a raison. Ça, je parle du principe que tu déclines.
Mais que Fred a raison parce que dans plein de sports, évidemment, tu vas pas te gêner. Si Federer avait pu gagner 28 Grand Chelem, il l'aurait fait. Il y a aucun souci là-dessus.
C'est pas pareil parce que la domination n'est pas aussi écrasante dans ce sport-là.
Sauf qu'en vélo, qui est quand même un sport
vélo, ça se voit.
Extrême au niveau des efforts.
C'est visuel.
Et le Tour de France.
C'est important aussi.
Hein. C'est dur. Ça nous rappelle de très mauvais souvenirs à des époques où je parle pas de Festina, de Lance Armstrong, etc. où c'est vrai que les gars arrivaient au bout de 6-7 heures de course et n'étaient pas fatigués ou n'étaient pas marqués.
Mais il y a quand même, si vous, pendant le Tour de France, je suis certain que vous avez beaucoup lu ce qui se disait sur le Tour. Dans l'équipe, il y a eu des directeurs de la perf qui ont parlé. Il y a des entraîneurs spécialistes de matériel et des calculs de la puissance qui ont parlé. Et qui ont dit qu'ils étaient complètement circonspects au sujet du Slovène. tant sur les temps d'ascension que sur l'impression qu'il donnait à l'arrivée, parce qu'il était beaucoup moins marqué que les autres.
Après,
donc,
ça,
tout ceci, je pense, malgré tout, que ça peut être une des raisons qui pousse le public à comment dire.
On a toujours préféré les perdants magnifiques aussi.
Pascal, c'est aussi la raison, parce que je crois que sur le Ventoux, alors j'espère que je dis pas de bêtises, mais Jérôme Pinot me contredira sinon, mais je pense qu'il a battu le record de la montée, même s'il termine
Diban
Mayo, qui, je veux pas refaire son historique espagnol, il bat tous les records de toutes les montées.
Après, on explique les progrès technologiques.
Les progrès technologiques quand même.
C'était pas le débat.
Il n'y a pas d'incidence. Oui, mais c'est pas le débat, mais tu peux pas l'occulter quand même.
Non.
C'est vrai que c'est pas le débat.
Là, c'est une menace de Pascal.
Tu peux quand même pas occulter le fait que ça serait ne pas aller, ne pas ouvrir les yeux.
En tout cas, voilà, pour revenir sur ce débat, pour être aimé, est-ce qu'il faut éviter d'écraser la concurrence? Si on avait parlé, par exemple, du foot et du Paris Saint-Germain, on sait à quel point le PSG a pu, à un moment donné aussi, agacer les autres supporters, et puis par son ultra-domination dans le championnat. Tu vois, ça existe aussi. En France, on aime bien aussi...
Mais aussi par les attitudes, le PSG. Ouais. Et cette saison, beaucoup ont rallié et ont supporté le PSG parce que les attitudes d'une vraie équipe.
Tu as raison.
Le Paris Saint-Germain s'est comporté comme une vraie équipe cette année.
Alors, on va finir là-dessus.
Comme l'année prochaine ou non?
Mais l'année prochaine, encore plus.
Allez,
encore
plus. Vous restez avec nous parce que dans un instant, on revient à les grandes gueules qui reviennent avec les contre-attaques. Vous avez encore quelques minutes pour voter pour votre débat préféré. Une minute exactement. Dans une minute, on est de retour. Et on va savoir qui s'est imposé et qui va pouvoir proposer son débat. A tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Vous écoutez les grandes gueules du sport, il est 10h48. Merci beaucoup d'être à l'écoute d'RMC, Pascal Duprat, Ludo Duchesne, Fred Weiss ce matin. Et dans un instant, les GG vont passer la seconde. On va s'intéresser au retour en Ligue 1 des anciens champions du monde 98, puisque c'est officiel pour Florent Thauvin qui arrive à Lens, après Pogba à Monaco et Giroud à Lille. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais signe pour la Ligue 1? 32-16 pour rejoindre le standard des grandes gueules du sport dès maintenant. Mais d'abord, à cette heure-ci, vous le savez, les GG prennent les commandes de l'émission.
RMC, les GG contre-attaque.
Avec trois débats, ça s'est joué à pas grand-chose. Troisième et dernier, mais sur le podium quand même, Pascal Duprat, pour son débat autour d'Arthur Fils, qui renonce à Cincinnati à cause d'une blessure. 30% pour Pascal. On pourra en reparler dans de prochaines émissions. Ne t'inquiète pas, Pascal.
Merci d'avoir participé, Pascal.
Deuxième, merci, 32%. Pascal. Pour parler de Nice qui a perdu contre Benfica cette semaine, match retour la semaine prochaine, est-ce qu'ils ont vraiment tout donné pour essayer de se qualifier en Ligue des Champions? Ludo, 32% seulement.
Tant pis, comme ça ils n'auront pas les vraies explications.
T'avais des infos.
J'avais bien bossé le truc et les auditeurs vont pouvoir le regretter.
Tu es le seul à bosser tes contre-attaques, sache-le. Voilà. Parce que celui qui a gagné, c'est donc Fred Weiss, 38%, pour nous parler des contrats en NBA, Fred.
Come on.
Tu trouves ça presque aberrant, c'est ça, ces nouveaux contrats, là, cette mode des contrats un peu farfelus?
Alors, objectivement, les contrats NBA ont toujours été d'une valeur immense et c'est vrai que ça me choque plus. Les sommes, même si elles sont, pour moi, indécentes, arrivent à ne plus me choquer. Sauf qu'on en arrive à des choses qui paraissent incroyables. C'est-à-dire que, par exemple, Luka Doncic, vous savez, ce joueur qui est arrivé à Los Angeles pendant un transfert la saison dernière, vient de signer un contrat de 3 ans sur lequel il va toucher 165 millions. Et vous me dites, c'est super, il y a aucun problème par rapport à ça. C'est énormément d'argent, encore une fois, mais c'est super. Ouais. Sauf que il avait la possibilité de signer 4 ans, qu'il a refusé. Et alors là, on se dit, mais pourquoi il a refusé? Tout simplement parce que si il signe ses 3 ans, il fait ses 3 ans, à la fin de ses 3 ans, il pourra signer un contrat record de 5 ans et 417 millions de dollars. Avec la même équipe. C'est-à-dire que, en fait, maintenant, pour avoir un gros contrat, faut refuser le premier, ou en tous les cas, le raccourcir pour avoir un gros contrat. Moi, ça me paraît de plus en plus incohérent.
Mais c'est dans son contrat.
C'est quelle logique?
C'est dans son contrat.
Dans son contrat, la logique, en fait, est inscrit le fait que s'il re-signe encore,
en fait, en NBA,
il sera spacteur.
En fait, en NBA, il y a des clauses qui te permettent d'avoir tel argent pour telle durée, d'accord? Ouais. Et là, comme il signe 3 ans, ça lui permet d'ouvrir la possibilité de renégocier au bout de 3 ans.
D'accord.
Et d'avoir ce contrat supermax qui est de 417 millions d'euros.
Mais il faut que les performances suivent quand même.
Alors, si c'est déjà acté, il a signé 7 ans en fait.
En théorie, il a signé 7 ans. Sauf que s'il se bête, bon, c'est un peu plus compliqué. Mais en théorie, il a signé 7 ans.
D'accord.
Mais réellement, pour la franchise, c'est un vrai problème. Parce que ça veut dire qu'au bout de 3 ans, en théorie, il est libre. C'est-à-dire qu'il ne signe pas 4 ans comme il aurait dû. Mais j'ai un autre cas de figure encore plus intéressant. Nikola Jokic, meilleur joueur NBA en ce moment, même si ça n'a pas été le MVP, meilleur joueur NBA en ce moment. On lui a fait, la franchise lui a fait une proposition de prolongation de 200 millions de dollars, d'accord ? Sauf qu'il l'a refusé. Et alors, vous allez me dire, mais il est complètement fou. 200 millions de dollars, c'est incroyable. Sauf qu'il l'a refusé. Et s'il refuse, l'année prochaine, il pourra signer une prolongation de 280 millions de dollars. Ben c'est-à-dire qu'il y a 80 millions de dollars
d'écart
entre les deux propositions. Alors, il a refusé ça. Et moi, je trouve qu'on devient complètement fou. On marche sur la tête. Il n'y a plus de sécurité pour les franchises. Il y a trop d'argent en jeu. Et je me pose la question, est-ce qu'on en arrive à des dérives absolument incroyables? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Et juste pour repréciser quelque chose par rapport à Luka Doncic, quand il aura signé sa prolongation de 417 millions de dollars sur 5 ans, ça représente 35% de la masse salariale. Un seul joueur. Donc, je voulais savoir
de la franchise.
Ouais. 35% de la masse salariale de la franchise.
Il n'y a pas de salarié cap.
Justement, il y a un salarié cap.
Donc, les clubs sont aussi obligés.
Donc, en gros, maintenant, tu peux avoir deux joueurs qui signent au Supermax, qui te représentent, allez, on va dire 70%, j'exagère un petit peu, mais 70% de ta masse salariale est composée avec les 30% qui te restent pour retrouver des joueurs. Ça devient absolument n'importe quoi. C'est de plus en plus compliqué. Les nouveaux droits télé qui dépassent le milliard ont faussé encore la donne. Pour moi, je ne comprends plus la NBA vraiment.
C'est le rêve pour la Ligue 1 hein, quand même.
Ça va être le sport qui paye le mieux au monde.
En fait, la répartition est 50-50 pour les propriétaires et pour les joueurs. Donc évidemment, ça paye énormément.
Ouais. Pascal, une réaction à ce débat proposé par Fred.
Merci Fred, c'est pour cet éclairage sur la NBA. Donc je suis très heureux d'avoir perdu et je suis très heureux des arguments que tu as avancés. Et je suis aussi très 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 heureux parce que pour une fois, on parle pas de foot et d'argent. On parle de basket et d'argent. on pourrait parler de golf et d'argent. On pourrait parler de Formule 1 et d'argent. Et je pourrais en citer d'autres de sport. Pour une fois, on a laissé le football tranquille. Voilà. Ouais. Bravo, Fred. Non, vraiment, bravo.
Non, mais ça se passait pas comme ça à ton époque.
Moi, je m'inquiète.
Quand t'étais en NBA, pour être très clair. Les contrats, c'était beaucoup plus clair.
Les contrats, comme clause. En fait, il y a toujours eu beaucoup de clauses en NBA. Parce que c'est vrai qu'ils sont toujours battus pour ce genre de clause. On arrive à une absurdité de refuser une année de contrat de plus ou de prolonger à un moment donné parce qu'on sait qu'on va gagner plus. Et moi, ça me choque. Ouais. Moi, je préférais avoir plus de stabilité.
Ça n'existait pas à ton époque, Fred.
C'était beaucoup plus. En réalité, à l'époque, on ne bougeait pas beaucoup de franchises. Donc ça veut dire que tu étais plus sûr de rester dans ta franchise et en fait tu pouvais faire une carrière dans la même franchise.
Et toi tu captais 80% de la masse salariale totale.
C'est le système qui me dérange. C'est ce système.
Tu prenais 80% de la masse salariale totale de ta franchise.
Les mauvaises années.
Non mais tu vois Jokic, tu peux pas lui reprocher le mec. Mais tu peux pas lui reprocher comme nous.
Je suis d'accord, mais t'imagines pour la franchise tu te dis le mec re-signe pas.
C'est un contrat qu'on lui propose après voilà c'est si c'est dans les clauses.
Il y a Nuggets. Donc moi, ces dérives-là m'inquiètent, vraiment.
Ok, bon bah voilà, c'était le débat proposé par Fred.
Ils veulent venir en Europe, c'est un autre débat, mais...
Eh oui.
Il s'est bien débrouillé, hein. Bravo Fred.
Pour pas avoir bossé, quelqu'un qui n'a pas bossé du tout et qui pensait perdre, bravo. Après,
je vous rappelle quand même
que je suis là, on a mis deux plombs pour bosser, on s'est fait sortir, il est arrivé, big time.
Allez, vous retenterez votre chance, évidemment, Pascal Ludo.
Pascal lui fait croire qu'il n'a pas bossé, mais il avait bossé, évidemment.
Les grandes gueules qui reviennent tout de suite, on va parler de Ligue 1. Tiens, on va voir si vous avez bossé, puisqu'on est évidemment à une semaine de la reprise. Et les têtes d'affiche s'appellent Giroud, Pogba et donc Thauvin, des champions du monde 98. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est mauvais signe pour notre championnat? 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant dans les grandes gueules du sport. On arrive tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.